7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Seize.
Chers amis, il est 9h moins le quart, dans 10 minutes ce sera l'analyse de Rémy Tell, et tout de suite, la chronique d'Alexandre de Galzin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Alexandre, à nouveau.
Bonjour Richard.
Et aujourd'hui, pas de blague.
Non, effectivement Richard, bien que les élections municipales et Christian Estrosi me donnent vraiment matière à m'amuser de mon côté, j'ai le cœur bien en peine aujourd'hui, alors ce sera une chronique sérieuse.
La nouvelle France est entrée en scène.
La nouvelle France est entrée en scène. Ses propos, ce sont ceux de Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, à l'annonce des résultats du premier tour des élections municipales de dimanche dernier. Si le député des Bouches-du-Rhône le dit, c'est qu'il en est fier, c'est qu'il en est heureux. En réalité, les résultats municipaux de LFI sont tout de même assez modestes, soyons francs, mais des conquêtes comme Saint-Denis, où le score de 46% à Roubaix, indiquent tout de même que oui, la nouvelle France arrive et qu'elle va désormais voter. Et d'ailleurs, dans cette chronique, j'aimerais bien vous proposer modestement quelques arguments à ressortir auprès de vos amis ou de votre cousine insoumise au sujet de cette nouvelle France.
Merci pour la cousine insoumise. Je suis un peu vieux jeu, mais quand vous me parlez de Nouvelle France, j'ai quand même en tête un Cajun dans son marais de Louisiane, un trappeur commerçant avec les Hurons, le fort de Québec, les vastes forêts d'Acadie. La France insoumise ne drague pas excessivement l'électorat franco-québécois.
Richard, vous n'y êtes pas du tout. Non, maintenant, quand on parle de Nouvelle France, on en parle dans sa version mélenchoniste. D'ailleurs, c'est la première perversion de ce vocable, alors qu'autrefois la Nouvelle-France désignait une extension de la France. Ce terme désigne désormais une forme de remplacement de la France. Mais alors, d'où ça vient déjà? Eh bien, la Nouvelle-France est une idée qui est née en 2018 à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Bah oui, il faut bien avoir des symboles. Jean-Luc Mélenchon est alors au premier épisode des Rencontres Nationales des Quartiers Populaires, et le voilà qui lance son concept. L'idée passe un peu sous les radars, puis renaît en 2024 jusqu'à devenir omniprésente à chaque meeting du patron officieux de la France Insoumise. Alors, comment LFI définit-elle elle-même sa nouvelle France? Eh bien, avant de rentrer dans les conséquences, essayons de voir un petit peu comment l'adversaire nous dit qu'il pense.
Pour le savoir, vous avez réalisé une expérience à haut risque. Vous vous êtes rendu sur le site du programme de la France Insoumise.
Absolument. Alors sur la page d'introduction du dit programme, on trouve 12 occurrences du vocable Nouvelle France, dont deux petits sous-chapitres. Bon, c'est petit, mais c'est tout de même plusieurs paragraphes, donc un petit peu long pour cette chronique. Je vais en citer en partie, en essayant d'être le plus honnête possible. Le passage commence ainsi. Chaque génération est un peuple nouveau. Cet énoncé a l'allure d'une évidence banale, mais combien de fois dans l'histoire humaine un peuple a-t-il été autant transformé que le nôtre aujourd'hui? Suivent ensuite deux paragraphes concernant les changements liés aux droits des femmes, donc la pilule contraceptive, le droit à l'avortement, le viol conjugal. Enfin, l'idée est que les nouveaux droits des femmes ont d'une certaine façon fait rentrer la moitié de la population du pays dans le nouveau peuple français. À la limite, l'idée peut se débattre, mais ferait relativement consensus dans la population française, même si on n'est pas épargné par les mensonges habituels sur l'écart salarial entre hommes et femmes. Bon. On arrive pourtant au paragraphe final à quelque chose de particulièrement intéressant que je vais vous lire de façon exhaustive. Je cite. Mais ce n'est pas le seul des changements. Le peuple français de 2025 a été largement brassé. Rendons-nous compte, en 1958, un Français sur 10 avait au moins un grand-parent étranger. Désormais, c'est 1 sur 4. Tant de Français, tant de Françaises ont des liens personnels intimes avec le vaste monde. C'est un atout. Tant ont amené au pot commun de leur plat. Leur musique, leurs mots, leur poésie. Oui, la France est une nation créole. Je cite toujours, sa culture est une invention permanente aux multiples racines. Mais le fait ne concerne pas seulement l'immigration de l'extérieur de nos frontières nationales. En 1958, nous sortions tout juste d'un monde millénaire où l'on vivait et mourait à l'endroit où l'on était né. Maintenant, plus d'un adulte français sur deux vit dans un département différent de celui où il est né. La France n'est plus la même et ne le sera jamais plus. Son présent et son futur ne seront plus jamais un passé toujours recommencé.
Sympa.
Alors, j'ai trouvé plusieurs passages particulièrement intéressants ici, mais les trois mots les plus importants sont sans doute ceux-ci. C'est un atout. Ce qu'on comprend, c'est qu'avoir des liens personnels intimes avec le vaste monde, autrement dit, être issu d'une immigration extra-européenne, c'est un atout. Autrement dit, un peuple métissé est supérieur à un peuple homogène. Autrement dit, le multiculturalisme est supérieur à la civilisation française multiséculaire. Vous savez, tout cela m'évoque le petit garçon qui, dans la cour de récréation, baisse la tête parce que, contrairement à ses camarades, il n'a pas d'origine. Karim vient d'Algérie, le père d'Enzo est italien, les parents d'Abdoulaye sont sénégalais, mais le brave petit Paul, lui, n'a pas d'origine. Il n'a qu'une seule nationalité, il n'est que français. De la même façon, l'ancienne France n'était que la France, n'était, quoi qu'en disent les gauches, composée que de Français ou du moins d'Européens proches. La dernière phrase aussi est assez évocatrice de ce que je vous ai lu. Contrairement à l'ancienne France, on peut dire de la nouvelle France que, je cite, « son présent et son futur ne seront plus jamais un passé toujours recommencé ». Plus jamais, cela signifie donc que cela le fut. Dans la vision insoumise de la France, nous étions autrefois comme pris dans une boucle temporelle qui nous faisait tout bêtement exister, nous marier, bâtir notre pays entre nous, et la vie était un perpétuel recommencement. Désormais, comme dirait l'autre...
Le monde y bouge, et il bouge vite.
Voilà, l'affirmation contredit tout de même le préambule selon lequel, rappelez-vous, chaque génération est un peuple nouveau. En fait, il faudrait demander à un insoumis si, entre le français de Philippe Auguste et celui de Saint-Louis, il existe déjà une nouvelle France. Pour le moment, je vous avoue que j'ai pas tout à fait la réponse. Alors toujours dans le même programme de la France insoumise que je citais plus haut, on retrouve un autre passage concernant la nouvelle France. On comprend bien que l'idée de Jean-Luc Mélenchon n'est pas que les Blancs, les Français, les Européens de souche disparaissent, vraiment. Ce qu'il souhaite, c'est être celui qui leur fera perdre le pouvoir sur leur propre terre. On peut ainsi dire que la couleur de peau, la religion, la langue et les traditions culturelles sont en fait exploitées comme des éléments de division de la nouvelle France créole. Oui, il existe des différences, mais il faut les mettre toutes dans une grosse calebasse et touiller pour obtenir un mélange et cela le plus vite possible. Sinon, ce serait, je cite, « épouser l'illusion d'une culture française figée dans le passé quand la réalité de la créolisation rebrasse en permanence par de nouveaux apports depuis deux millénaires ». Alors voilà, nous nous créolisons depuis deux millénaires. On se demande d'ailleurs pourquoi pas plus, pourquoi pas moins. Pourquoi deux millénaires? Eh bien c'est presque sous-entendre que la France a 2000 ans. Autre point qui s'oppose à la grande doxa de la gauche qui veut que la France soit née en 1789, donc faites attention, mais je reprends. Autre problème ici, il est impossible en réalité de nier que le substrat démographique des Gaulois est ultra majoritaire chez les Français de souche. De même, les éducations de Jean-Luc Mélenchon sur l'apport de la civilisation musulmane à la civilisation européenne sont pour la grande majorité absurdes, ou au mieux, ne traduisent que des apports résiduels. De fait, je rappelle que les deux civilisations, musulmane et catholique, ont été en guerre à peu près incessante durant 1200 ans. Alors, la solution à tout ça pour la gauche est de relativiser. La matérialité d'une tradition, la prééminence d'un peuple et d'une religion, la construction d'une culture, en fait, puisque rien de tout cela n'est tout à fait absolu, rien n'a de substance propre, et alors, le moindre marchand mauresque du XVIIe siècle devient le prétexte au changement de peuple. Évidemment, là non plus, ça ne tient pas, ce n'est pas parce que la France n'a jamais été une forteresse fermée à l'entrée du moindre étranger de passage que nous devons accueillir toute la planète, donc méfiez-vous des prémices morales de ce genre d'argument.
Et évidemment, une question se pose, quelle est la différence entre Nouvelle France, créolisation et grand remplacement?
En fait, la créolisation, c'est un phénomène global de mélange de tout, alors que la Nouvelle France concerne exclusivement le peuple. L'équivalent de la créolisation, ce serait plutôt le petit et le grand remplacement ensemble, si vous voulez, à la fois la culture et le peuple. Mais est-ce que la Nouvelle France, c'est la France du grand remplacement? Eh bien, pas exactement. En fait, les Blancs n'ont pas besoin de disparaître ou d'être minoritaires. En fait, il suffit qu'ils cessent de dominer, de maintenir leurs vieilles idées et qu'ils acceptent la créolisation pour que tout fonctionne.
Avant de conclure, vous vouliez souligner deux dérives majeures de cette pensée Nouvelle France.
Tout à fait, Richard. Alors, un, le racisme anti-blanc et la survalorisation des cultures étrangères. Bon là, je vais laisser Mélenchon parler, ce sera sans doute plus éloquent. Et ça, c'était ce mercredi soir.
À Saint-Denis, la Nouvelle France est affirmée, et vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas rien que ça soit à Saint-Denis. Vous avez vu les histoires que je me suis fait avec les réacs en leur disant « Ah bah oui, mais Saint-Denis, la basilique, pas moyen de la faire si vous aviez pas demandé aux musulmans comment on fait, ils sont tous mis à hurler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bah, pas de bol. Ils ont le front de me dire que non, non, pas du tout. C'est les Goths qui ont inventé les arcs brisés. Mais ça va pas, les Goths, ils étaient juste capables de briser les arcs, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais c'est tout. Et non, le reste, la science, elle est venue, mais pourquoi, a priori, ça serait nul? Je veux dire, il a même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes, à l'autre bout du continent africain, pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes.
Voilà, à trop vouloir mettre un signe d'égalité entre les cultures, à trop vouloir les mélanger, on finit par les hiérarchiser dans le but de rétablir l'équilibre. Alors, conséquence, survalorisation de l'étranger, dénigrement absolu de ce qui est originellement français. Deuxième point, la conquête islamique est remplaçante. Et oui, parce que s'il faut que les blancs et leur vieux système patriarcal, misogyne, capitaliste, etc. disparaissent du pouvoir, il faut bien que quelqu'un les remplace. Or, parmi les candidats au pouvoir, on peut se douter que beaucoup n'ont pas comme idéal une France multiculturelle, multiconfessionnelle et où on se tiendrait tous par la main en chantant joyeusement. Ce coup-ci, je voudrais vous faire écouter Rima Hassan. Alors, dans ce discours, elle prend la parole devant ses militants aux côtés d'une Mathilde Panot mortifiée.
L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ses réalités. L'époque du porte-parole est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. C'est pourquoi dans cette quête d'union, nous n'avons pas le droit de négliger, d'invisibiliser ou d'oublier les voix politisées concernées par le racisme et les discriminations.
Voilà, les Arabes doivent être représentés par les Arabes et les Blancs par les Blancs. Et puis comme les Blancs doivent perdre le pouvoir, je vous laisse deviner ce qui va se passer.
Alexandre, au fond, ce que vous nous décrivez, c'est la dérive du discours humaniste centriste qu'on entend depuis 50 ans.
Alors vous savez, certains disent parfois que le centre est une gauche en devenir. Moi, de mon côté, je crois bien qu'aujourd'hui, en fait, une part du centre est plutôt une droite en devenir. Mais dans le fond, vous avez raison. Les vieilles idées centristes de relativisme culturel, de métissage, d'acceptation de l'autre, de vivre ensemble, d'intégration sans assimilation, de négation identitaire, tout cela poussé à son extension maximale, mène au discours de la France insoumise dans le domaine de la Nouvelle France. Alors ne traçons pas non plus de signes égaux entre les deux, hein. On a beau détester ce qu'ils ont fait au pays, nous avons plus en commun avec les centristes qu'avec cette extrême gauche. Mais dans le fond, leur logiciel est le même sur le plan migratoire, sur le plan identitaire. Alors chers auditeurs, j'espère que cette chronique vous aura été utile, merci beaucoup de l'avoir écoutée.
Merci beaucoup Alexandre de Galzin, et tout de suite l'analyse avec Rémi Tell.
Ligne droite, l'analyse.
Bonjour Rémi Tell.
Bonjour Richard, bonjour à tous.
Vous nous avez proposé comme sujet un sujet passionnant qui est la mise en place à nouveau de cette culture de mort. Et là, avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui a pris une décision vraiment lourde de conséquences et très forte. Et on en parlait déjà en 2025. Ça y est, ça a été voté en 2026.
Oui, Richard, on peut craindre de se trouver collectivement au moment d'une grande pulsion morbide, puisqu'en ce temps, du Moyen-Orient au Royaume-Uni, les bonnes nouvelles ne durent qu'un instant. Nous aurions pu, ce matin, nous réjouir qu'au milieu du chaos, la lumière ait trouvé un discret chemin, puisqu'en Écosse, le Parlement a rejeté mardi le projet de loi légalisant l'euthanasie au terme de 2 années de débats houleux. La presse nous apprend par ailleurs que le même projet pourrait subir un sort identique en Angleterre, mais aussi au Pays de Galles. Mais à peine s'était-on réjoui que la Chambre des Lords britannique, dont les décisions s'appliquent donc à l'Angleterre, au Pays de Galles, à l'Écosse et à l'Irlande du Nord, oui Richard, à peine s'était-on réjoui que cette Chambre des Lords dépénalisait l'avortement jusqu'au terme de la grossesse, dit autrement l'infanticide, dit autrement encore le meurtre barbare d'une vie innocente au prétexte supposé du droit des femmes. Et là, bizarrement, quasiment rien dans la presse tricolore, bizarrement ou pas, Richard, car une telle monstruosité arrive comme la conclusion logique de longues décennies d'omerta sur cette question.
Alors, pardonnez-moi Rémi Tell, votre connexion a l'air d'être un peu, d'être capricieuse, voilà. Votre discours est très haché.
J'en suis absolument désolé. Est-ce que ça va un petit peu mieux ou pas?
Là, ça va très bien. Voilà, croisons les doigts.
Ça va.
Donc, voilà, pardonnez-moi, je vous avais interrompu dans votre développement.
Vous avez eu bien raison et je confiais donc cette anecdote qu'un jour un responsable de premier plan catholique m'a vu. Ça reprend?
Non, c'est bon, allez-y.
Les, C'est bon, pardon. M'avait confié que dans la République, il y avait deux tabous insurmontables, la franc-maçonnerie et l'avortement, à croire peut-être qu'il y aurait un lien entre l'un et l'autre. Bref, ce silence gêné en dit long sur l'état d'effondrement moral dans lequel nous nous trouvons, sans qu'il suscite de commentaires spécifiques dans les médias, y compris conservateurs. Alors vous me direz, certes, mais il y a les bombes partout au Moyen-Orient. C'est vrai, Richard, mais ce n'est pas un autre sujet, c'est le même sujet, en fait. La psychopathie comme logique politique, les masses aveugles tour à tour témoins et acteurs du nihilisme ambiant. Ne nous étonnons pas du mépris dont nous faisons partout l'objet.
Alors, il y a dans cette décision d'ouvrir l'avortement jusqu'à la naissance quelque chose d'absolument stupéfiant, effectivement. Donc, toute sanction pénale est retirée à l'encontre des femmes qui avorteraient en dehors du cadre légal existant. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'autoriser l'avortement jusqu'au 9e mois, on est juste en train de dire que celles qui quitteraient le cadre légal de l'avortement jusqu'à 24 semaines, ce qui était déjà effectivement extrêmement permissif par rapport à la législation française. Rappelons d'ailleurs que l'un des combats des femmes est de faire en sorte que, enfin des femmes, l'un des combats des femmes de gauche, en tout cas l'un des combats des femmes de gauche qui confondent le féminisme avec le droit à avorter, est de faire en sorte de repousser sans cesse le délai légal de l'avortement en France, donc 12, 14 semaines. Et là, l'idée c'est de dire, eh bien, quand bien même le délai serait toujours fixé à 24 semaines en Angleterre, les avortements tardifs ne peuvent plus être pénalement poursuivis. Voilà. Ce qu'il y a d'ailleurs d'absolument remarquable, c'est-à-dire, on ne modifie pas la loi, on la rend juste absolument inutile. Je veux dire, en fait, cette décision, c'est une espèce de puits sans fond par rapport à la manière de considérer la vie en société. Non seulement on permet l'infanticide jusqu'au dernier moment, et d'ailleurs dans certains cas en France aussi, pour des raisons médicales notamment, cet infanticide est permis. Mais là, c'est aussi l'idée que ne changeons pas la loi, contentons-nous juste d'expliquer que elle ne sert à rien et que quelles que soient les peines prévues, autrement dit quelles que soient les valeurs morales que cette loi est censée charrier, quelle que soit l'autorité que cette loi est censée embarquer, en fait, on enlève toute possibilité à cette loi d'être efficace. C'est ça aussi, je trouve que c'est une mutation absolument stupéfiante.
Oui, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie, vous savez, vous connaissez ce principe qui est quand même sur lequel reposent les sociétés démocratiques, celui selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est réputé être autorisé. Et donc, quand on dépénalise, en réalité, on légalise. Effectivement, c'est peut-être plus facile à assumer devant l'opinion publique, mais le résultat est le même, et surtout, le signal, le message collectif qu'envoie la loi, lui, est absolument identique. Donc, y a une forme à la fois de barbarie morale, c'est très clair, mais doublée d'une très grande couardise de la part des lords britanniques, puisque en dépénalisant, ils ont de fait autorisé en réalité cet avortement jusqu'au terme. Aux États-Unis, il y a un certain nombre d'États démocrates, alors c'est en train de revenir un petit peu en arrière sous l'impulsion de l'administration Trump, mais on peut penser au Vermont, on peut penser à l'Oregon, il y en a une dizaine d'autres qui déjà permettaient cet avortement jusqu'au terme de la grossesse. Alors tout ça se passe évidemment dans des conditions tellement affreuses que je ne reviens pas dessus, mais il faut bien sûr l'intervention d'un tiers, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, cette porte diabolique qui avait été ouverte finalement par les États-Unis à ce sujet est en train d'être traversée également par le Royaume-Uni. Et pour arriver à la vitesse où vont les choses, vous savez que la France a été le premier pays du monde à constitutionnaliser le droit à l'avortement. À la vitesse où vont les choses, ce qui se passe au Royaume-Uni servira de précédent et auprès d'élus de la France insoumise, de justification pour dire « mais si c'est possible au Royaume-Uni, eh bien il faut que ça devienne possible en France ». Et évidemment, on trouvera toujours des cas extrêmes, des cas limites qui serviront à appuyer cette argumentation. Aujourd'hui en France, vous avez une interruption médicale de grossesse qui est possible jusqu'au terme en cas de danger de mort pour la mère ou pour l'enfant. Quand il y a eu le projet de loi bioéthique en 2021, on a voulu étendre cette IMG pour détresse psychosociale, c'est-à-dire la personne avec qui j'ai eu ce projet d'enfant m'a quitté, j'ai perdu mon travail, etc., etc. Ça a été évité à un cheveu, mais on sentait bien qu'il y avait la tentation de le faire et surtout la disposition des cœurs parmi les élus à le faire. Et à l'époque aussi, en France, au moment donc 2021, où on expliquait qu'il fallait tout sacrifier pour protéger la vie, eh bien finalement, cette possibilité n'avait pas vraiment soulevé d'émoi, y compris au sein des médias conservateurs ou des gens qui plutôt sont réputés s'y opposer. C'est dire l'omerta qui pèse encore aujourd'hui sur ces sujets auxquels, quoi qu'on en pense, on devrait avoir le droit de réfléchir librement, sans peur et sans être menacé de délits d'entrave. Parce que ce que je vous dis là, aujourd'hui, les échanges que nous avons pourraient même relever d'une certaine façon du délit d'entrave tel qu'il a été considéré dans les récentes évolutions sur la constitutionnalisation de l'avortement en France. Et vous voyez bien que c'est aujourd'hui l'un des grands débats interdits dans notre pays.
C'est, oui, interdit. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que donc l'avortement est constitutionnalisé, mais que pour autant, les partisans de l'avortement continuent à agir et à expliquer qu'il faut avorter plus et plus longtemps. Et ce sont exactement, d'ailleurs, les arguments de ceux qui sont en faveur de l'avortement en Angleterre. Donc, le taux d'avortement n'a jamais été aussi élevé au Royaume-Uni. Et néanmoins, on explique que une femme sur trois aura recours à l'avortement dans sa vie et qu'il est hors de question qu'on n'admette pas qu'il faut faciliter cet avortement en investissant évidemment tout ce qu'il faut pour que les cliniques d'avortement fleurissent sur tout le territoire britannique, en expliquant que notamment l'un des problèmes, c'est le coût de la vie. Et donc, au fur et à mesure que la vie augmente, il est normal d'arbitrer entre le forfait téléphonique, les promenades en voiture et le fait d'élever Harold ou Jessica.
Déjà, peut-être, premier point, il faut évidemment faire les différences entre l'acte et les personnes qui y ont recours. Et je crois qu'une grande partie du piège autour de la question de l'avortement aujourd'hui, c'est qu'effectivement, un nombre considérable de femmes dans nos entourages, partout dans la société, y ont eu recours, et que finalement, elles ne demandent pas tant le droit d'avorter que le fait d'éventuellement pouvoir le faire sans se sentir coupable. Dans une société qui a complètement subverti la notion même de vie, en la réduisant paradoxalement à l'état de simplement d'existence biologique, tout en permettant d'y mettre fin, au début comme à son terme aujourd'hui avec l'euthanasie, il y a une forme de tromperie généralisée, y compris de ces femmes qui ont recours à l'avortement. En cela, je ne suis pas en train de déresponsabiliser, mais de dire qu'il faut différencier bien évidemment la personne de l'acte, et que d'une certaine façon, dans cette situation où on ment collectivement sur ce qu'est la vie, sur le moment où elle commence, sur sa signification, et y compris sur sa signification spirituelle, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'un très très grand nombre de femmes tombent d'une certaine façon dans ce piège-là. Et évidemment, il faut distinguer la personne et l'acte. Du reste, il y a des femmes, mais jusqu'à présent, pour faire un bébé, il faut une femme et un homme. Et donc, il y a aussi une question de responsabilisation des hommes dans la sexualité conjugale ou en dehors de tout cadre conjugal. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement on se trouve aux prises avec une forme de très grand paradoxe aujourd'hui, puisqu'on nous dit un fœtus de 34 semaines ce n'est pas un être humain. Par contre, si je mets une perruque, je peux devenir une femme. Donc, il y a là quelque chose qui est très étonnant, De même que dans l'argumentation qui sert quand même de pilier aujourd'hui à la défense de l'avortement, à savoir mon corps, mon droit. D'une part, évidemment, lorsqu'on accueille un autre en soi, ce n'est plus son corps dont il s'agit, il y a une communion de corps, mais on parle bien d'un tiers. Et d'autre part, le principe du « mon corps, mon droit » a été quand même plus qu'escamoté durant la période du Covid, avec cette extraction du consentement vis-à-vis des injections. Et là, bizarrement, ça n'a choqué personne. Je dirais même que sociologiquement, vous avez trouvé du côté des défenseurs de l'avortement les plus défensés, les plus zélés, pardon, défenseurs de la vaccination obligatoire. Et donc, il y a quand même une question à se poser sur la nature véritable de leurs intentions. Et si vous voulez, on pourra en discuter.
Eh bien, parfait, effectivement, vous ouvrez la question. Comment résoudre cet apparent paradoxe?
Alors, j'ai écouté, je ne m'étais jamais posé cette question, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'interview qu'a accordé le père Chad Ripperger, qui est un prêtre catholique, dans un podcast américain fameux dont j'ai perdu le nom, mais qui explique que dans toute société, finalement, le diable a toujours eu à cœur de maintenir, de permettre l'avortement, parce que dans la représentation classique de la question, les âmes avortées n'étaient pas baptisées, et puisqu'elles n'étaient pas baptisées, leur âme ne pouvait pas être sauvée. Ce qui a été complètement aujourd'hui, c'est une vision qui a été complètement revue. Ça part d'Augustin qui parlait de ça en son temps, et puis au XIIIe siècle, on a dit que finalement les bébés avortés devenaient comme des petits philosophes, c'est-à-dire qu'ils étaient dans des limbes, mais ils avaient un rôle à jouer. Aujourd'hui, on sait notamment via les expériences de mort imminente qu'évidemment les enfants avortés vont au paradis comme la plupart des gens. Donc il n'y a pas de sujet de ce côté-là, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des puissances spirituelles qui tiennent beaucoup à ce qu'on ne permette pas l'éclosion de la vie. Et donc, beaucoup d'acteurs de ces choses-là se prétendent athées, etc. Peut-être qu'ils n'ont pas conscience du jeu qu'ils jouent, mais en tout cas, fondamentalement, il y a quelque chose de cet ordre-là derrière. Et bien sûr, en introduction, on évoquait le lien avec certaines sociétés secrètes ou en tout cas discrètes. Finalement, dans la volonté de s'affranchir totalement de toute loi extérieure, eh bien, il y a deux sommets, d'une certaine façon, et c'est le suicide, l'euthanasie, et puis l'avortement, parce que là, c'est vraiment l'affranchissement dans ce qu'il a de plus abouti. Donc il y a des raisons en fait très idéologiques vous voyez, n'ont absolument rien à voir avec ni la santé des femmes, ni leur bien-être psychologique. D'ailleurs, les femmes qui ont recours à l'avortement, pour certaines d'entre elles, subissent des séquelles pendant de très très longues années. C'est une douleur qu'elles portent, parfois sourde, mais c'est une douleur qu'elles portent. Et à titre personnel, pour avoir connu l'adoption de quelqu'un qui ne pouvait pas s'occuper de moi, vous savez, il y a d'autres options quand on ne peut pas s'occuper d'un enfant, et notamment l'adoption. On dit toujours qu'il n'y a pas assez d'enfants à adopter en France et que c'est la raison pour laquelle les couples se tournent vers des adoptions internationales. C'est bien connu qu'il y a encore quelques siècles, on allait déposer des bébés sur le parvis des églises. Je ne dis pas ça pour appeler à l'abandon généralisé, mais pour expliquer que, en soi, une grossesse non désirée et qui ne peut pas être assumée par la suite n'est pas une impasse. Elle ne devrait pas être une impasse. Et je crois que le rôle des pouvoirs publics, c'est précisément de trouver des solutions autres que celles de mettre un terme à la vie pour pouvoir régler le problème.
Je voudrais qu'on revienne quand même sur la bonne nouvelle du début, c'est-à-dire 2 ans de discussion au Parlement écossais pour finalement rejeter la loi sur l'euthanasie. Voilà, c'est quand même tout à fait intéressant. D'autant qu'il y a des témoignages qui fleurissent en ce moment, notamment sur le réseau X, avec par exemple des vieilles personnes qui expliquent, je parle notamment d'une Canadienne de Vancouver, à quel point elle a été extrêmement surprise alors qu'elle arrivait à l'hôpital pour parce qu'elle avait mal. Et donc, tout de suite, on lui a proposé une assistance médicale pour une aide à mourir. Et donc, elle a été évidemment scandalisée. Elle en a fait part. Non seulement, bien sûr, elle a guéri, mais depuis, elle s'est mise à voyager. Ou encore un reportage sur lequel je suis tombé sur Facebook avec une femme beaucoup plus jeune que sa grand-mère qui est centenaire. Donc évidemment, c'est pas très compliqué d'être beaucoup moins âgé qu'une centenaire, surtout quand on est sa petite fille, et qui s'est rendu compte que sa grand-mère déclinait, qu'elle parlait de son envie de mourir, et plutôt que de lui proposer une euthanasie compassionnelle, lui a dit non, à la place on va faire le tour du monde. Alors la grand-mère était un peu étonnée, et donc les voilà partis faisant le tour du monde en camping-car. La centenaire a eu 101 ans, 102 ans, 103 ans. Elles ont décidé de le faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, l'une marchant et l'autre, évidemment, et tout en marchant, poussant la petite voiture de la grand-mère. Et on commence à avoir des témoignages de gens qui expliquent « Non, en fait, ce n'est pas parce que je suis vieux que j'ai envie de mourir, ce n'est pas parce que je suis malade que j'ai envie de mourir. Ce que je réclame à l'État, c'est un, de me soigner, et ce que je réclame à la société, c'est de ne pas me parquer dans des mouroirs, puisqu'évidemment, la petite fille a enlevé sa grand-mère de l'EHPAD dans lequel elle était, mais au contraire, de faire en sorte que je sois inséré dans une société. » J'ai envie de vivre et au pire, si j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir paisiblement, c'est-à-dire dans une unité de soins palliatifs et pas sous prétexte que j'ai un lumbago ou une grippe un peu sévère, un médecin prétendument compatissant m'envoie ad patres. Donc les Écossais ont réellement discuté et ont abouti à ce que cette loi sur l'euthanasie soit rejetée. On voit d'ailleurs en France, l'espoir est fragile et d'ailleurs les députés français pro-euthanasie sont très énervés, que peu à peu les discussions continuent, que la manière dont les Français sont de mieux en moins informés et fait qu'ils adhèrent de moins en moins à l'euthanasie, il y a un espoir.
Oui, l'euthanasie, dit Claire Fourcade, qui était l'ancienne présidente de la Société française de soins palliatifs, plus on en parle, moins on l'aime. Et effectivement, on se rend compte, donc en Écosse, les débats ont duré 2 ans, on se rend compte qu'il y a un effilochement de l'adhésion, y compris parmi les élus, au fur et à mesure qu'interviennent dans les médias des médecins, des patients et des personnes qui connaissent un petit peu le sujet. En France, vous le dites, c'est pareil. Entre la première lecture du projet de loi fin de vie à l'Assemblée nationale et la deuxième lecture, il y a eu à peu près 30 voix qui ont été perdues. Alors qu'en plus, on pourrait se dire, naturellement, entre la première et la deuxième lecture, il y a presque un mouvement de renforcement parce qu'il y a une forme de déresponsabilisation. Déjà, un, on s'est habitué au contenu du texte, et deux, on se dit, les jeux sont faits et de toute façon, avec ou sans mon concours, c'est acquis. Et donc, on a plutôt tendance à paresseusement, d'une certaine façon, suivre le mouvement. Et pourtant, il y a eu une trentaine de députés là qui avaient voté en première lecture pour le texte, et en deuxième lecture qui ont voté contre le texte. Après, il y avait aussi des députés, je pense par exemple à M. Jérôme Gedge, qui se sont engagés depuis de très longues années contre l'euthanasie et qui, mystérieusement, au moment de voter, ont voté pour. Bon, peut-être qu'un jour, on comprendra les raisons qui cachent ce revirement soudain et complètement inexplicable du point de vue de la logique. Mais de façon générale, il y a plutôt une perte d'adhésion, parce qu'effectivement, ce qu'on présente comme une solution, les gens se rendent compte que c'est une fausse solution, et quand on discute avec eux, en règle générale, ils tirent cette conclusion eux-mêmes. Récemment, quelqu'un me disait « Non, mais tu ne peux pas comprendre, voilà, moi, ma grand-mère s'est donnée la mort elle-même dans un EHPAD parce qu'elle souffrait trop, etc. » Et donc évidemment, dans ces cas-là, on milite pour rien, on est compatissant. Et puis en fait, en discutant avec la personne, elle nous racontait que quand elle allait voir sa grand-mère à 6 heures du soir, sa grand-mère avait fait dans sa couche depuis le matin et que personne ne l'avait changé ou qu'elle subissait des formes, ce qu'on pourrait appeler de la maltraitance institutionnelle de la part du personnel de l'institution où elle était placée et qui pourtant a pignon sur rue. Donc, dès qu'on creuse, en fait, les choses, on se rend compte que l'euthanasie, c'est une fausse solution à un véritable problème. Encore faut-il avoir le courage de regarder ce problème en face, mais d'une certaine façon, là, le conflit au Moyen-Orient permet aussi de repositionner les choses. Vous voyez, quand il s'agit d'aller déstabiliser une région tout entière, bombarder des populations, précipiter une crise énergétique qui aura des conséquences sur le monde entier, les 200 milliards que demande le Pentagone sont accordés dans la seconde. Vous voyez, donc, les soins palliatifs en France, alors évidemment, les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes, mais les besoins ne sont pas les mêmes non plus au niveau de l'ordre de grandeur. Pourquoi ça pose un tel problème? Et donc, c'est précisément parce que chez les promoteurs actifs, que ce soit au niveau politique ou au niveau intellectuel de l'euthanasie, il y a des considérations qui ne sont pas des considérations bienveillantes vis-à-vis des malades et de leurs familles, mais plutôt soit des considérations financières, c'est le lobby des mutuelles, soit des considérations idéologiques, et c'est la franc-maçonnerie et tous ceux qui s'y apparentent et qui trouvent dans l'euthanasie l'expression d'une forme d'autonomie qui est complètement illusoire d'ailleurs, parce qu'en réalité, l'euthanasie s'impose à celui qui la reçoit, il ne la choisit pas. C'est une revendication bourgeoise de gens qui imaginent un jour avoir le choix, mais l'étude de ce qui se fait au Canada, en Belgique, un peu partout, démontre bien que l'euthanasie est toujours subie. Et vous commenciez votre question par l'exemple canadien. On sait que, par exemple, au Québec, il y a des ciblages de personnes qui sont très faibles, très isolées, qui parfois reçoivent même des courriers en disant « Avez-vous pensé à ce qu'ils appellent l'aide, c'est-à-dire « assisted in dying » Est-ce que vous y avez pensé comme solution à vos problèmes ?»
Et effectivement, l'exemple canadien est absolument terrible. L'exemple belge aussi, d'ailleurs, avec cette extension continue du domaine de l'euthanasie. Voilà, où au début, on nous parle de maladie de Charcot et on finit par expliquer que les adolescents qui sont dépressifs, ce qui est un peu, hélas, le cas de beaucoup d'adolescents, surtout en ces périodes où on est très soucieux de santé mentale et où après avoir claquemuré la population pendant 2 ans, on explique que c'est bizarre, les gens se sentent mal. L'Écosse est un exemple de débat démocratique qui aboutit en fait à choisir la vie plutôt que la mort, avec d'ailleurs des débats qui ont été très intéressants à suivre, avec moins d'idéologie et moins, même si bien sûr la gauche, comme d'habitude, a expliqué que tous ceux qui étaient contre l'euthanasie étaient juste des fascistes et des réactionnaires, mais de vrais arguments sur la possibilité d'avoir une alternative vis-à-vis de poser une alternative qui est de dire euthanasie ou soins palliatifs. Pour l'avortement, là, en revanche, on sent que la pente est quasiment irréversible et que l'extension du domaine de l'avortement va continuer avec donc cette dépénalisation de l'avortement au-delà des délais de 24 semaines, mais ne serait-ce que ce délai de 24 semaines. Il nous reste une minute. Quelle action peut-on mener? Quel espoir peut-on entretenir? Est-ce qu'il y a des signes ailleurs dans le monde d'une inversion de tendance?
Alors, en 30 secondes, ouvrir un livre d'histoire. Parce que ce qui a permis à ces deux causes de prospérer, c'est effectivement la désignation ad Hitlerum de leurs adversaires. Or, s'il y a bien des mouvements politiques qui ont eu recours en masse à ce qu'ils appelaient la mort miséricordieuse au début de la vie ou à la fin de la vie, ce sont les régimes qu'on trouve effectivement il y a maintenant plus de 80 ans de cela. Et il faudrait que chacun se rende compte que ces techniques, ont été inventés dans les pires intentions. Et pour répondre, parce que voilà, je fais référence évidemment à l'Allemagne nazie qui avait recours aux stérilisations de masse, aux avortements de masse et aux euthanasies de masse, sans jamais dire que c'était par détestation des uns et des autres. L'euthanasie, on appelait ça la mort miséricordieuse. Il y a des textes qui sont disponibles sur les sites les plus officiels et qui le démontrent. Donc il faut sortir de cette posture-là, se déculpabiliser d'en parler, et c'est ce qui permettra de faire avancer le débat.
Merci beaucoup Rémy Tell, et à très vite sur Radio Courtoisie. Et tout de suite, nous allons entendre Jérémy Combe qui nous parle de notre manière de bien vivre.
Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Alors la semaine dernière, on savait où placer sa serviette, mais où placer ses couverts quand on a terminé?
Bah oui, c'est une autre question. Car à table, il existe un langage silencieux que beaucoup utilisent sans même le savoir. Ce langage, ce sont les couverts. Vous avez terminé votre plat, vous reposez vos couverts. Mais comment? En croix? Séparé? Posé sur la nappe? Ce geste qui semble instinctif est en réalité très codifié dans l'art de vivre à la française. Et surtout, il ne s'adresse pas qu'à vous. Il parle au service et aux autres convives. À l'origine, les couverts ne servent pas seulement à manger. Ils servent aussi à communiquer sans interrompre le repas. Dans les grandes maisons, le service devait être discret, fluide, presque invisible. On évitait d'appeler, de faire signe ou de parler fort. Les couverts deviennent alors un code visuel. Leur position indiquait si l'on mangeait encore, si l'on faisait une pause ou si l'on avait terminé. Ce langage silencieux permettait de maintenir le calme, l'élégance et l'harmonie de la table. Dans les repas formels, un convive qui posait ses couverts en désordre envoyait, comme d'habitude, un message confus. Le service hésitait. Fallait-il débarrasser, attendre, remplacer l'assiette? À l'inverse, quelqu'un qui posait ses couverts correctement montrait qu'il connaissait les usages et respectait le rythme du repas. On disait alors que c'était quelqu'un de facile à servir. Un immense compliment à table. Concrètement à la française, quand on a fini un plat, les couverts se placent parallèlement dans l'assiette, légèrement en diagonale à 16h20, manche vers le bas, lame du couteau tournée vers l'intérieur, dents de la fourchette vers le ciel, je n'ai plus faim, vers l'assiette, j'en reprendrai bien. Cette position signifie clairement « j'ai terminé, vous pouvez débarrasser » quand les dents regardent vers le ciel. À éviter absolument les couverts en croix, les couverts posés sur la nappe, les couverts séparés dans l'assiette. Ces positions sont perçues comme négligées ou ambiguës. Aujourd'hui encore, dans les restaurants élégants, ce code est universellement compris. Il permet un service fluide, sans interruption, sans paroles inutiles. C'est une forme de politesse silencieuse qui respecte à la fois le personnel et les autres convives. Même à la maison, ce geste donne au repas une certaine tenue. À table, on ne communique pas seulement avec des mots. Les couverts parlent pour vous. Ils disent votre attention, votre calme, votre respect du moment partagé. En France même, je vous le dis souvent, le silence est codifié et parfois la plus belle des politesses consiste simplement à bien poser son couteau et sa fourchette, Richard.
Jérémy, merci, mais que se passe-t-il quand il y a un porte-couteau à côté de l'assiette?
Alors il faut savoir que le porte-couteau normalement se sert non pas dans les grands dîners, mais dans les dîners amicaux et familiaux. Le porte-couteau, c'est pour ne pas salir la table avec la lame de votre couteau, pour que ceux qui reçoivent ne changent pas de nappe à tous les repas. Donc quand il y a un porte-couteau, ben vous poserez votre couteau sur le porte-couteau pour honorer ceux qui l'ont placé. Mais normalement, dans un dîner, on va dire ponctuel, on ne met pas de porte-couteau, alors que beaucoup pensent que ça embellit la table.
Merci Jérémy Combe.
Je vous en prie.
Ligne droite, la revue de presse.
Et cette revue de presse, c'est avec Tuc Dual-Denis, dont on espère qu'il va nous rejoindre, mais qu'on attend avec impatience. Pourquoi? Parce que le numéro de Valeurs Actuelles de cette semaine, avec la tête souriante de Michel-Édouard Leclerc en couverture, évidemment, est une couverture pleine d'espoir. Alors, pas forcément parce que le sourire de Michel-Édouard Leclerc était ce dont on a le plus envie de contempler, mais surtout parce qu'il y a marqué « Rallumons le moteur de la France ». Bonjour Tuc Dual-Denis.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, ça peut paraître étrange d'avoir mis cette personnalité issue de la société civile en une de Valeurs Actuelles cette semaine, mais c'était un peu un pied de nez, en fait, ce résultat de premier tour d'élection municipale qui nous ont offert le spectacle d'une France fragmentée, en tout cas d'une scène politique fragmentée, émiettée, décomposée et sans vainqueur véritable. Et donc, on est allé chercher quelqu'un qui ne vient pas de ce sérail-là, qui est très actif dans le débat public. Je précise dans mon éditorial cette semaine que, pardon de me citer moi-même, hein, mais que ses réponses sont parfois un peu déconcertantes, que ses propositions sont pas toujours le plus précises possible. Mais en réalité, on voit bien que ce sont des personnalités comme celle-là qui arrivent à essayer de proposer autre chose que les partis traditionnels. Et il y a une légitimité de Michel-Édouard Leclerc sur les sujets de pouvoir d'achat, d'une part évidemment de par son métier, mais aussi parce qu'on est en pleine crise énergétique avec la hausse du prix du pétrole et que ces enseignes vendent du carburant. Et il explique comment, selon lui, la France devrait faire pour baisser le prix du pétrole. C'est quelqu'un de, à la fois de gauche et à la fois de droite, Michel-Édouard Leclerc, enfin assez sensible à la redistribution des richesses et en même temps totalement opposé à la taxe Zuckmann contre une fiscalité confiscatoire et en même temps pour la préservation de tout ou partie du modèle social français. Et en fait, c'est ça qu'on explore avec lui, avec cette espèce d'innocence et de fraîcheur qu'ont perdu les autres responsables véritablement politiques.
Oui, et il le dit, je suis conscient que la popularité qui est la mienne vient justement du fait que je ne suis pas un homme politique. Cela me conforte plutôt dans l'idée de rester sur le terrain concret de la transformation de notre économie et du renforcement du lien social. Je trouve admirable que quelqu'un explique que la bonne manière, en fait, de faire de la bonne politique, c'est de ne surtout pas être politique.
Exactement, et d'ailleurs il commence à l'apprendre à ses dépens, puisque plus il laisse entendre que potentiellement il pourrait s'engager dans la campagne de 2027, plus ça l'oblige, plus ça le positionne et ça lui attire des ennuis. Il a eu quelques mots malheureux entre guillemets, puisque un peu trop favorable à Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines sur LCI. Il s'en explique dans cet entretien en reprenant ses distances à nouveau avec le leader de la France insoumise. Mais c'est vrai que la droite n'a pas de chef aujourd'hui. Je vous rassure tout de suite, ça sera pas Michel-Édouard Leclerc le chef de la droite. Mais pour ce qui vous intéresse, j'imagine plus particulièrement vous comme moi et comme vos visiteurs.
Ce sera Gabriel Attal, parce que c'est ainsi que Gérard Larcher le présente. Non, pardon, excusez-moi.
Comme la droite n'a pas de chef, écoutez, on est bien obligé d'aller piocher ça et là, chez des chefs d'entreprise, chez des intellectuels et tout autre genre de personnalité, des gens qui ont un propos et qui, en attendant, alimentent effectivement le débat public.
Alors, il y a, comme d'habitude, d'autres articles, notamment un très grand article de Laurent Dandrieux, enfin, je parle de sa taille, mais aussi de sa substance.
Sa profondeur.
Sur le film de Xavier Giannoli.
Effectivement, le film de Xavier Giannoli, un film très courageux, puisqu'il met en scène un Jean Dujardin collaborateur, sioniste pendant la Seconde Guerre mondiale et Laurent l'explique en fait le réalisateur a eu la sophistication le courage aussi de mettre à l'écran un personnage ambigu, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout noir tout blanc. C'est selon Laurent un des grands films qui restera dans l'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, parce que il montre, il pose cette question en fait fondamentale à tout à chacun. Qu'aurait-on fait en pareilles circonstances? Alors, il s'agit évidemment pas de réhabiliter l'acte d'avoir collaboré avec les nazis, surtout pas. Mais il s'agit de montrer les difficultés des tréfonds de l'âme humaine en pareille situation.
Il s'agit, une fois plus, de nous montrer l'humain, et c'est à ça que sert l'art. Merci beaucoup, Duc Dualdeni. Rallumons le moteur de la France. Voilà, le dernier numéro avec Michel-Édouard Leclerc. Certains auditeurs nous disent, attention, il est pro-Mercosur. Oui, il est pro-Mercosur, mais à côté de ça, il est quand même nettement plus efficace que n'importe quelle politique. Merci, Duc
Dualdeni. Merci beaucoup, Richard.
Zone libre.
Et cette zone libre, c'est avec les deux as de la matinale, Louis Rigaudière et Alexandre de Galzin. Je m'incline devant eux chaque matin.
Bonjour Richard.
Bonjour Louis Rigaudière.
On n'en demandait pas tant.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez mitonné pour aujourd'hui ?
Alors, bah, écoutez, à l'avant-veille de ce second tour des municipales, hein, rythmé par des débats tous plus ennuyeux les uns que les autres, parfois même inaudibles. Je pense notamment au débat de Rachida Dati, Sophia Chikorou et Emmanuel Grégoire.
C'était pas ennuyeux.
Qui était... Ah, alors vraiment, c'est au-delà de l'ennui. C'est vraiment une performance de pouvoir écouter ce débat jusqu'à la fin, en tout cas, parce que vraiment, moi, je n'y suis pas parvenu. J'ai décidé de vous purifier l'esprit avec une archive de 1979. Hein, vous avez dû connaître. Vous aviez quoi ? Vous aviez 40 ans à l'époque, Richard.
À peu près.
C'est ça. Vous suiviez de manière assidue les débats politiques de l'époque. Et donc, je vous propose de vous purifier l'esprit avec ce débat très animé, mais quand même très courtois et avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de tact entre Jacques Chirac et Georges Marchais. On est en 1979, ça vous fera du bien, je pense les auditeurs pourront se remémorer quelques souvenirs. Écoutez.
Vous êtes au pouvoir depuis longtemps, vous avez tous les pouvoirs et vous n'avez pas fait ce que vous promettez aujourd'hui.
Dites-moi, monsieur Marchais. Dites-moi, monsieur. Mais
non, ça pas du débat européen.
Je répondrai brièvement.
C'est...
Ne le relancez pas, on va pas en finir.
Monsieur Marchais, vous me dites, vous êtes au pouvoir depuis longtemps. C'est vrai. Mais si on y est, c'est parce qu'on a été élu.
Absolument.
Bon, si on a été élu, c'est parce qu'on n'a pas si mal, jusqu'ici, défendu les intérêts de la France et des Français. Sinon, ils ne sont pas plus chauds que d'autres. Ils nous auraient pas réélus. Bien. Alors, pour ce qui concerne l'élargissement, monsieur Marchais, vous connaissez parfaitement ma position. Alors, je le répète, je sais bien que plus c'est gros, mieux ça passe, mais tout de même, il y a des limites. Je suis contre l'élargissement de la communauté à l'Espagne et au Portugal. C'est clair.
Et à la Grèce.
La Grèce est un problème complètement différent, et je ne vois pas d'inconvénient, majeur à l'entrée de la Grèce dans le marché.
Excusez-moi,
je vais intervenir dans ce débat, s'il vous plaît.
Je m'excuse. C'est parce que M. Chirac m'a posé une question, je pensais par politesse devoir le répondre, mais je vous en prie, je vais répondre ensuite.
Peut-être on va me permettre de commenter le match de football d'hier soir.
Vous avez reconnu la voix de la femme qui intervenait ?
Non.
C'était Simone Veil. Bon voilà, j'ai oublié de vous le dire juste avant le propos. Donc voilà, Simone Veil, Georges Marchais, Jacques Chirac. Et évidemment, c'est toujours un plaisir de voir ces débats qui se passent de manière très courtoise.
Et puis avec d'excellents arguments. Les Français réélisent quelqu'un, c'est parce qu'ils sont contents, il n'y a qu'à voir avec Macron.
Mais voilà, exactement.
C'est une vraie validation.
Et toutes ces archives sont disponibles sur l'INA. Ça tombe bien parce que j'ai pris vous connaissez l'INA Madeleine ? C'est le Netflix de l'INA. Je recommande à vos auditeurs ce petite plateforme française qui permet de retrouver toutes ces archives des années 80-70. Et notamment, il y a tous les apostrophes. Ça montre vraiment le gap absolu.
Je sais pas si c'est ça qu'il faut vendre. Faut vraiment dire qu'il y a tous les apostrophes.
C'est quand même passionnant.
Il y a l'apostrophe avec Boutan et Georges Steiner.
C'est extraordinaire. Voilà.
Il y a aussi des petites capsules d'entretien qui passaient au journal télévisé. Ou de petits reportages, je pense notamment, il y en avait un qui m'avait marqué, mais c'était sur un fermier, au fin fond des Landes, qui en fait citait quatre auteurs par phrase en expliquant.
Et qui lisait de la poésie surtout.
Oui, exactement. Voilà. C'est des choses.
On était un peu éloigné du zadiste nantais. Et vous-même, Alexandre.
Je veux pas non plus prendre toute la lumière vu que mon sujet est quand même
sensiblement
plus important que celui de Louis Rigaudière. Enfin, ça reste un cran au-dessus. De manière générale, d'ailleurs, je propose que ce soit le grand entretien de lundi ou mardi prochain, ça pourrait servir. Alors, je vous lis le titre qui m'a beaucoup marqué. Un chat léopard de l'amour vole un poisson à une loutre. Alors, en fait, comment dire ? En fait, de l'amour, en fait, c'est évidemment ce fleuve russe.
On parle d'un fleuve, c'est ça ?
Oui, exactement. On parle de ce fleuve russe. Alors, l'article est court, donc je vais me permettre de vous le lire. Mais donc, le 17 mars, dans la réserve naturelle de Loup-Souris, dans le kraï de Primorié. Êtes-vous déjà allé dans le kraï de Primorié ?
Non, mais j'ai lu La taïga de Loup-Souris de Vladimir Arseniev, excellent livre.
Vous en avez de la chance parce que c'est vraiment pas mon cas. Et donc en Russie, un chat léopard de l'amour a été filmé en train de voler un poisson à une loutre. Le félin s'est approché discrètement avant de surprendre l'animal et s'emparer de sa prise. Et sachez que ce type de comportement, ça s'appelle du kleptoparasitisme.
Incroyable.
Et exactement, kleptoparasitisme est assez
Un peu comme un maire et les filles par rapport à un maire PS du côté de la Seine-Saint-Denis. C'est
exactement,
du kleptoparasitisme.
Qui vole les voix tout le temps. Mais exactement. Et apparemment, c'est assez rare justement entre les chats léopards de l'amour et les loutres. C'est quelque chose dont il faut être conscient. Donc peut-être un événement historique finalement auquel on a pu assister, dont on a pu parler ce matin. Voilà, et rappelons que le chapard existait en France, d'où d'ailleurs le mot chapardé. Et mais oui.
Oh là là, décidément mon ignorance de fait s'étendre à mesure que
mais vous savez que la loutre est en train de reconquérir l'ensemble de nos rivières.
On en avait déjà parlé, Richard, et je vous rappelle quand même que mes grands-parents subissent de manière très pesante le retour de la loutre en France et qu'il s'agirait qu'effectivement on y aille mollo un petit peu sur la loutre, qu'on ne lui accorde pas trop de place non plus.
On va arrêter ces éloges outranciers de la loutre.
Oui, ces éloges outranciers.
Je présente solennellement les excuses de Radio Courtoisie aux grands-parents d'Alexandre de Galzin,
merci,
dont le sort des berges nous émeut profondément.
Merci.
Voilà. Et merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette zone libre. Chers amis, vous nous quittez sur YouTube, vous nous quittez sur X. Juste avant de nous quitter, je le rappelle, vous êtes 1 million à nous écouter chaque semaine, c'est épatant, on talonne Europe 1 en audience. Eh bien, n'hésitez pas, rejoignez la cohorte de ceux qui permettent à cette aventure de continuer.
Et pour permettre à cette aventure de continuer, nous comptons sur votre générosité, nous comptons sur vos dons, des dons en ligne que vous pouvez nous faire sur soutenir.rc.fr ou bien encore vos chèques que vous pouvez adresser à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Eh bien, excellente idée, et nous allons méditer tout cela en réécoutant Pascal Le Petit qui nous racontait ce matin sa dernière victoire contre les islamistes.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, c'est avec Pascal Le Petit. Bonjour Pascal Le Petit.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes fraîchement élu au conseil de Saint-Honoré-les-Bains dans la Nièvre, bravo.
Voilà. Merci.
Vous avez gagné 2 sièges, vous et l'un de vos colistiers. Et surtout, vous êtes responsable, en fait, d'une plainte envers l'IESH. Et vous avez donc plusieurs affaires judiciaires. Et notamment, vous étiez mis en examen suite à 2 plaintes. Et avec une première plainte a été rejetée. C'est-à-dire, vous aviez accusé l'IESH d'être un repère d'islamistes, ce qui est exact. Et l'IESH vous a attaqué pour diffamation. Et vous avez été relaxé, c'est-à-dire vous avez gagné. En fait, il n'est pas diffamant d'expliquer que l'IESH forme des islamistes.
Tout à fait. Moi, ça a démarré en 2022, donc par une note que j'avais rédigée, qui était un petit peu, un fourre-tout. Hein. C'était une note de synthèse, qui s'intitulait l'IESH de Château-Chinon, le laboratoire nivernais des frères musulmans. Voilà. Donc ça m'a valu une plainte dans la foulée assez rapidement. Lorsque j'ai été mis en examen, j'ai prévenu la gendarmerie locale que j'allais en faire un sujet national, et j'en ai fait un sujet national puisque j'ai invité Marion Maréchal à venir pendant la campagne sur les européennes. On a tourné une vidéo sur place, elle a eu le courage de venir, on a tourné une vidéo sur place dans ce centre de formation, la tête de ce réseau européen des frères musulmans. Et cette vidéo nous a valu une deuxième plainte pour moi, une première plainte pour elle. Donc moi, j'ai été mis en examen 2 fois en définitive.
La première plainte, donc, pour diffamation, vous avez gagné en première instance. Mais d'une manière surprenante, pour la deuxième plainte, vous avez été condamné, c'est-à-dire en 2024, à cause de cette vidéo, en première instance, alors même que l'IESH venait d'être dissoute par le Conseil d'État, précisément pour des faits d'islamisme, le tribunal a décidé de vous condamner pour avoir, là aussi, attaqué l'Institut européen des sciences humaines, donc le FONE des frères musulmans.
C'est ça, parce que dans la première affaire, en fait, la victoire, la relaxe obtenue mardi a été obtenue par exception de nullité, par Maître Pichon, que je recommande d'ailleurs, Maître Pichon excellent, qui a compris que ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre des juges gauchistes et que le mieux, c'est de démonter les procédures, voilà, tout simplement. Et donc, cette procédure est tombée par exception de nullité, donc là, c'était mal ficelé, donc bon, il l'a démontré, ça a été validé par le tribunal. Dans l'affaire qui me lie à Marion Maréchal, cette vidéo, donc on est tombé sur une juge qui est connue pour ses sentences, on va dire, très partisanes. Et donc, on a été condamné en première instance, on a fait appel, et cet appel sera jugé Cour d'appel de Lyon début mai.
Alors, c'est une fois plus, c'est un appel qui survient alors que l'IESH a été dissoute. Et comme vous le dites d'ailleurs dans un entretien au journal du Centre, ce que vous avez dit sur l'IESH ce n'est que le dixième de ce que le Conseil d'État reproche à l'IESH.
Tout à fait, nous on a été très gentils, on a été, je dirais, presque amateurs sur cette affaire. Quand on lit le décret de dissolution, donc, qui reprend finalement tous les rapports des services de renseignement hein, nationaux, ce n'est pas fantaisiste, on se rend compte qu'effectivement l'IESH était une fourmilière islamiste et que sur certains points, notamment sur les contenus pédagogiques, on va au-delà de la stigmatisation, on va même à la discrimination raciale ou religieuse contre les chrétiens, contre les juifs. Voilà, il y a des appels au meurtre contre les homosexuels. Voilà, on est dans quelque chose quand même de voilà très très fort.
De très fort, et donc le Conseil d'État, l'État français décide que ce prétendu Institut européen des sciences humaines doit être dissous, et néanmoins, donc vous êtes condamné en première instance. Comment a-t-on pu justifier que un institut de formation d'imams, sous influence des frères musulmans, prêchant le meurtre des homosexuels, le racisme et la discrimination envers ceux qui ne sont pas musulmans, puisse être défendu par la justice?
Alors bon, c'est toujours le paradoxe assez incroyable en France. C'est vrai qu'en matière de diffamation publique, il y a deux exceptions, l'exception de vérité ou l'exception de bonne foi, mais il y a une temporalité qui fait que nous, ce qu'on a pu dire ou écrire se situe avant la dissolution. La dissolution, elle date du 3 septembre, et donc la justice française se base sur ce qui s'est passé avant, sans tenir compte de ce qui s'est passé après. Et c'est là qu'on est sur un paradoxe. On pourrait en rire, mais bon, c'est vraiment, vraiment, vraiment problématique, voilà, tout simplement.
Alors, le fait que la justice se passe sur ce qui s'est passé avant, j'entends bien, mais avant, les faits que vous dénonciez sont avérés. C'est-à-dire, même si vous dites, pour reprendre votre expression, que vous ne dénoncez que un dixième de ce que le Conseil d'État reproche à l'USH, vous dénonciez de véritables choses. Comment la justice peut-elle justifier que elle trouve néanmoins que ces choses-là sont licites, ou en tout cas que le fait de les attaquer serait condamnable?
Alors là, aucune idée. Moi, je pense qu'on a certainement des étiquettes politiques chez les juges. Il y en a certains qui ne cherchent pas du tout à le reconnaître, qui ne veulent pas le reconnaître. Il y a tout un débat sur les frères musulmans. On l'a vu à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps, où la gauche entière, et je ne parle pas d'extrême gauche, hein, je parle même du Parti socialiste, s'oppose à ce que les frères musulmans soient désignés comme organisation terroriste par le Parlement européen. Donc on voit bien que là il y a quand même un frein politique.
Alors ce frein politique, évidemment, il est en partie lié à cet islamo-gauchisme dont on voit les effets permanents en France, aussi à l'orientation de certains juges, mais on sent, ou en tout cas on peut le deviner, que dans la décision qui vous a visé, Marion Maréchal et vous-même, c'est aussi d'une certaine manière votre parcours politique. Vous avez été référent pour Debout la France, vous avez ensuite été référent pour... référent pour Identité et Liberté. Et pensez-vous que le fait que ce soit un citoyen de droite et d'une droite assumée qui porte plainte puisse jouer sur la manière dont la justice reçoit la plainte et l'instruit?
Oui, je le pense. Il y a un a priori fortement négatif, et on le voit aussi à travers la presse locale. Le titre du journal du Centre... la diffamation n'a pas été retenue pour vice de forme. Et oui, bien sûr, on arrive devant le tribunal. Pour certains juges, on est déjà coupable, évidemment.
Alors, et comment la population locale de Saint-Honoré-les-Bains juge votre combat?
Je retrouve les deux composantes habituelles. C'est-à-dire que moi, j'ai mené une liste pour les municipales qui a fait quasiment 30%. Je pense que je retrouve dedans des gens qui sont très contents du combat que j'ai pu mener à Château-Chinon. Et puis, quand je vais boire un café dans la localité d'à côté, je tombe sur des LFistes qui me regardent de travers. Voilà. Donc, on va trouver les deux composantes. Mais malgré tout, dans la Nièvre, ce centre de formation islamiste qui existe depuis 1991, hein, voulu par François Mitterrand, il alimentait un débat local qui était quand même assez amusant. Enfin, moi ça m'a toujours interpellé. C'est-à-dire que personne n'y avait mis les pieds, mais tout le monde avait son avis sur le sujet. Alors on parlait de souterrain, on parlait de centre d'entraînement, de tir, etc. Moi, j'ai voulu aller voir, tout simplement. J'ai voulu lever le doute, Je m'y suis rendu, j'ai rédigé cette note, j'y suis retourné avec, avec Mario Maréchal, j'y suis retourné avec Jordan Florentin de Frontières aussi. Donc on a, bon, voilà, je deviens un habitué des lieux, mais j'ai voulu lever ce doute et comprendre. Et je me rends compte qu'en comprenant et en éclairant, bah voilà, on emporte avec soi une partie de la population, que j'estimerais une bonne moitié, hein, un peu plus, un fort capital sympathie. Et puis en même temps, il y en a d'autres qui freinent, toujours pareil. Hein.
Alors, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Lepetit, donc, qui a été mis en cause par l'Institut européen des sciences humaines, qui en fait forme des imams et qui est sous influence islamiste en France. Tout à l'heure, à 7h25, nous recevrons Hervé Carès pour parler d'une autre partie du monde, mais là aussi où l'islam joue son rôle, puisque nous parlerons de la guerre contre l'Iran, menée par les Américains et les Israéliens. Hervé Carès, donc, ce centre de formation des imams, voulu par François Mitterrand, vous l'avez rappelé et ensuite laissé à la dérive, on peut le dire, était à Saint-Léger-des-Fougerais, dans la Nièvre. Donc, pourquoi, à votre avis, les musulmans et pourquoi, à votre avis, François Mitterrand est-il allé nicher un institut comme ça au cœur de la France profonde, presque sous les radars?
Alors, vous l'avez, c'est la bonne formule, hein, sous les radars, on est dans un endroit très discret, peu connu, peu de gens passent par ces routes éloignées, on est dans des forêts, on est caché derrière les arbres, les voies de communication sont assez rares, pas d'autoroute, pas de gare, donc c'est discret. Et ça permet tout simplement d'œuvrer dans l'ombre, sans trop faire de promotion ou de bruit. Et ça a été alimenté comme ça pendant 30 ans, mais il y avait aussi, je dirais, un chapeautage politique très favorable, hein, notamment à l'époque Nicolas Sarkozy, hein, où les frères musulmans, on leur déroulait le tapis rouge, hein, tout simplement. Hein. Donc, en même temps que les renseignements travaillaient et étaient déjà au courant depuis le début des dérives qu'on a pu relever, d'un seul coup, il y a eu un changement aussi de regard politique de la part de l'État. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, ben, l'IUSH n'avait plus du tout les faveurs du gouvernement et qu'il est tombé, qu'il a été dissous. Mais tout était connu depuis longtemps, voilà.
Alors, l'IESH conteste évidemment sa dissolution devant le Conseil d'État, exactement comme la Jeune Garde. À votre avis, l'IESH a-t-il une chance de pouvoir se reformer ?
Alors moi, à mon avis, non. J'espère avoir raison. Voilà, ce serait vraiment une décision, je dirais, politique catastrophique que de leur accorder le bénéfice de leur procédure. En fait, il y a une vision aujourd'hui européenne, une prise de conscience dans tous les pays européens sur la stratégie des frères musulmans, hein, qui, je le rappelle quand même, cherche à instaurer la charia à la place de la République en Europe et partout dans le monde d'ailleurs. Donc je pense que cette stratégie habile, hein, d'infiltration, pas violente, mais habile, est maintenant connue. Et donc j'espère vraiment que le Conseil d'État va valider cette dissolution, évidemment.
Et si jamais le Conseil d'État valide cette dissolution, donc vous serez quand même rejugé, puisque donc vous avez formé appel, et c'est en mai 2026 la justice va se reprononcer sur le fait que vous ayez dénoncé l'IESH, qui entre-temps a été dissous. Croyez-vous que là aussi la justice va aller au bout de sa logique bizarre, puisque donc je suppose que en première instance, si vous avez été condamné, c'est que le juge n'avait rien trouvé à reprocher à l'IESH et avait trouvé que tout ce que vous disiez de mauvais contre l'IESH était de l'ordre de la diffamation ou du mensonge. Et donc là, maintenant que le Conseil d'État a expliqué dans un premier temps, effectivement, que l'IESH valorisait une forme de racisme, que l'IESH valorisait une forme de discrimination en faveur des musulmans contre toutes les autres religions et ceux qui n'en ont pas, que l'IESH valorisait une discrimination contre les homosexuels, pensez-vous que le juge, d'ailleurs serez-vous jugé par le même juge, aura le même regard sur les faits qui vous sont reprochés ?
Alors, je l'espère pas. Alors, c'est pas le même juge. C'était une juge, notoire en la matière, qui a pris sa retraite. On lui souhaite une bonne retraite. Voilà. Donc, ce sera une cour d'appel. C'est en général plus sérieux. Et effectivement, cette juge a complètement occulté la dissolution de l'IUSH, hein, pour les raisons qui figurent dans le décret. Intéressant à lire. Non, elle a fait comme si ça n'existait pas. Donc, on était les méchants et l'IUSH était les gentils. La cour d'appel sera plus sérieuse et, à mon avis, tiendra compte de tous ces paramètres, heureusement.
Quand vous êtes à Saint-Honoré-les-Bains et maintenant vous êtes élu au conseil municipal de Saint-Honoré-les-Bains, c'était un combat électoral que vous meniez aussi aux dernières municipales. Quelles seront les premières mesures pour lesquelles vous allez mettre en place ou essayer de les mettre en place contre le maire actuel?
Alors bon, moi c'est un petit village thermal, hein. Il n'y a pas vraiment de sujet politique. Je me bats quand même contre certains éléments, certaines dérives. J'essaye de donner à ce village qui a un côté très 19e siècle, voilà, village thermal, de lui redonner un peu de sa superbe. Donc je suis plutôt sur l'esthétique, la préservation du patrimoine, voilà, des choses quand même qui me tiennent à cœur, la beauté et l'histoire et la culture. Voilà, je dirais même l'identité de ce village. Donc ça, c'est des choses que je vais préserver. Je vais arrêter le massacre des monuments qu'on détruit. J'écoutais ce que vous disiez aux informations juste avant à propos d'Urgence Patrimoine. Voilà, c'est des organismes que je connais avec lesquels je travaillerai.
Bon, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pascal Le Petit dans ce combat donc que vous menez toujours avec Marion Maréchal. Vous êtes toujours référent Identité Liberté. Une dernière question en quelques secondes, c'est vous étiez une liste assimilée divers droite, une liste sans étiquette, une liste labellisée extrême droite par le ministère de l'Intérieur?
Non, alors j'ai réussi à arracher le côté sans étiquette. Voilà, j'ai préféré parce que c'était un peu compliqué, enfin dans ces villages nivernais, la politique a du mal à s'imposer dans les villages en fait. Mais bon, moi je suis très identifié Marion Maréchal et Identité Liberté évidemment. Le journal du Centre ne parle de moi que à chaque fois en mettant entre parenthèses extrême droite. Donc voilà ce label, enfin je dirais presque cette médaille puisque finalement à force elle devient risible et ça me dérange pas du tout. Bon, elle m'est collée au veston et puis tout le monde le sait.
Eh bien, voilà, finalement, ce label infamant finit par être beaucoup plus honnête que tout le reste. Merci beaucoup, Pascal Le Petit, et bon courage pour votre prochaine étape judiciaire. Évidemment, vous viendrez nous en parler.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, c'est le moment où tout va se finir, mais avant que tout ne se finisse, puisque vous nous avez écoutés, n'hésitez pas à nous soutenir. Et d'ailleurs, Arnaud a d'excellentes suggestions à vous faire pour la chose.
Effectivement, Richard, si vous souhaitez voir perdurer cette belle aventure qu'est Radio Courtoisie et qui dure depuis bientôt 40 ans, eh bien, nous comptons sur votre générosité et donc sur votre soutien financier. Faites-nous des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou bien adressez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien, très bien. Et avec tout cet argent, nous faisons de très bonnes émissions. Quand je dis tout cet argent, c'est-à-dire avec ce peu d'argent, nous faisons d'excellentes émissions.
Exactement. Faire beaucoup avec peu, c'est notre devise. Tout à l'heure, à midi en direct, par exemple, le Libre Journal du Théâtre, dirigé par Jean-Luc Génère, consacré à l'antichambre de Briseville, aux Gémeaux parisiens. À 17h, Histoires à la loupe de Patrick Cibon, un document d'archives du 21 mars 2025, Ératosthène, le Nobel posthume. À 17h30, en direct, Restons Courtois, dirigé ce soir par Marc Baudrier et à suivre également sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. Trois sujets pour ce Restons Courtois du jour. Tout d'abord, Iran, les opérations militaires vont-elles durer ? C'était cette semaine un djihadiste français jugé à Paris pour esclavagisme sexuel à l'encontre des yézidis. Et puis, dernier sujet, un clin d'œil, culture. À 19h30, le Libre Journal de Lucien Rabouille, document d'archives du 28 novembre 2025, consacré à l'ordre moral et homosexualité. Et puis enfin, nous terminerons la journée avec le Chant Grégorien, émission de Patrick Branken. Une émission consacrée cette semaine au Dimanche de la Passion avec un document historique exceptionnel offrant des pièces tant grégoriennes que polyphoniques, extraites d'un ancien micro-sillon vinyle édité par les éditions du CERP le 16 mars 1975, très exactement, voilà.
Eh ben, formidable. Eh ben, merci beaucoup Arnaud. Et demain, pas de ligne droite parce que demain c'est samedi. Et donc à lundi.
À lundi tout le monde.